Morin.
Très fier.
Avec Dominique Morin.
Plus que fier, là. Ému.
Morin. Live.
Radio X.
Sept heures et demie, Nathalie Elgrabli, comment ça va?
Bonjour Dominique, très bien et toi?
Très bien, très bien, très bien, très bien. On en a pris des belles avec la CAQ encore, hein? Avec la CAQ qui appelle la police pour faire taire les gens et pour virer un fonctionnaire qui pourtant voulait alerter la population. J'ai hâte de t'entendre là-dessus, sur ce cas-là qui est un cas d'éthique.
Oui, écoute, t'as raison de dire qu'on en apprend des belles, bien que... Ça ne m'a pas énormément surprise, vu l'historique récent des sommes dilapidées et de l'ensemble de l'œuvre de la CAQ depuis les dernières années. Mais je trouve que ça, c'est très, très révélateur de la culture, la culture politique interne. Comment on gère les messages et comment on gère les messagers? Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment une culture politique de « on tire sur le messager lorsque... » il ne se conforme pas au récit officiel. Parce que c'est à peu près ça ce qui s'est passé. Tu vois, en fait, la CAQ m'a dit, dans mon gouvernement ou dans ma façon de gouverner, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui perdent des milliards de dollars et il y a la personne qui dit qu'on a perdu des milliards de dollars. Devine laquelle des deux perd sa job.
La deuxième.
Ben
celui
voilà.
Qui alerte, celui qui...
Et ça, je trouve que c'est très révélateur, mais aussi c'est très inquiétant. Non seulement en fonction de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quel genre de mentalité de gouvernance on y trouve, mais aussi le message qu'on envoie à l'ensemble de la population. Parce que dans le fond, le fonctionnaire, comment il s'appelle déjà, Olivier, dont j'ai oublié son nom complet.
Ouais, c'est ça. Ben, il va être défendu... Il va être défendu par son fonctionnaire, son syndicat.
Son syndicat. Oui, mais quand on y pense bien, qu'est-ce qu'on lui reproche? On ne lui reproche pas d'avoir menti aux Québécois. On lui reproche d'avoir refusé de mentir avec tout le monde en racontant un récit officiel, finalement. Parce que, dans le fond, c'est ça le récit officiel. C'est que les investissements dans la filière batterie, c'est la 8e merveille du monde.
C'est extraordinaire ce que tu viens de dire.
Ah oui?
La CAQ a viré un fonctionnaire qui a refusé de mentir et qui a rejeté le récit officiel. Le récit officiel étant, mais que c'est des bonnes nouvelles, mais ils veulent tous venir au Québec, mais on va être riche, on peut compétitionner même la Chine, on est parmi les grands dans le monde, etc. Genre de pièce de théâtre qui nous a mené quasiment à la banqueroute.
Exact. Et je te dirais aussi dans le récit officiel, c'est faites-nous confiance, on sait ce qu'on fait. Faites-nous confiance avec votre argent, on va le faire fructifier. D'ailleurs, je me souviens plus si c'était Fitzgibbon ou si c'était François Legault qui parlait de la filière batterie Norvolt et ainsi de suite comme étant le projet du siècle. Comparable à l'abbé James et ainsi de suite. Projet du siècle. En fait, ils avaient raison sur une chose. Je m'échangerai un mot. C'est pas le projet du siècle, c'est le fiasco du siècle qu'ils nous ont vendu. Et c'est ça le récit officiel. En fait, dans passer à ma grille d'analyse, c'est ça le récit officiel. C'est que faites-nous confiance avec votre argent, on va rendre tous les Québécois très riches en investissant dans la filière batterie. Les gens font confiance. On n'a pas tellement le choix. Et il s'avère que ce n'est pas juste quelques ratés. On ne parle pas que de quelque chose de pacotille. On parle vraiment de sommes phénoménales. Et quand on nous dit ces sommes-là, et ce n'est pas juste le fonctionnaire, en fait, le fonctionnaire, il a été confirmé par la vérificatrice générale qui nous dit quoi?
Ben oui.
Qui nous dit, ben oui, ils ont fait des placements sans vraiment mesurer les risques, sans vraiment avoir de planification à court, moyen terme. En fait, ils sont...
Ce sont des amateurs. Ce sont des amateurs qui ont été exposés. Mais le timing est très mauvais pour eux parce que le timing du rapport est mauvais. Ils sont en pré-campagne. La session se termine aujourd'hui. Et ensuite, ben, tu as la révélation du congédiement de ce fonctionnaire-là qui a voulu exposer la vérité et la mettre au grand jour. Donc, quel timing horrible. Mais l'UPAC, là-dedans, aussi, je veux qu'on en parle. L'UPAC reçoit un appel, elle est obligée d'intervenir, mais il y a un signalement. Le signalement, c'est un signalement qui est politique. Et là, c'est un concept des régies. C'est ça que j'ai expliqué aussi. C'est que la CAQ veut non seulement virer, et elle l'a fait, un fonctionnaire qui dit la vérité, mais veut surtout, à mon avis, briser les jambes de ses opposants et des partis adverses qui lui nuisent le plus à leurs yeux. Bon, ça a été Radio X, c'est une partie civile, là. Nous autres, on est une corporation. Ça s'est passé durant la pandémie. Mais Moncef Déragie est possiblement le plus agressif en la matière. Moncef Déragie avait en main un document qui montrait les mégawatts promis à plusieurs multinationales dans le monde qui veulent venir construire des centres de données. Il a flashé ça en disant, regardez, Fitzgibbon a tout donné, il reste quasiment plus de mégawatts. Ce que Fitzgibbon avait pourtant admis publiquement, mais là, la CAQ a interrogé Moncef Déragie. La CAQ a dit que Moncef Déragie avait fait un délit d'initié ou pourrait être accusé de délit d'initié parce que flashé la maudite feuille. Donc, je veux t'entendre là-dessus. La CAQ également a utilisé ou utilise l'UPAC à des fins politiques. Est-ce que c'est exagéré de dire ça?
Moi, c'est exactement ma lecture. C'est une façon de judiciariser toute forme de... Je veux même pas dire de dissidence. En fait, c'est judiciariser la vérité, là encore. Oui. Quand on y pense bien, quand on remonte à la source des choses, c'est ça. C'est que... là, je me dis, l'histoire de la filière batterie et ainsi de suite, ça doit être que la pointe de l'iceberg. Parce que si on est capable de faire ça avec des sommes aussi faramineuses, eh bien, ce laxisme-là, ou cette incompétence, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, il y a bien des adjectifs qui me passent par l'esprit en ce moment, si on est capable de faire ça à si grande échelle, c'est qu'on est aussi capable de le faire à des échelles moins importantes. Mais quand tu additionnes toutes les petites échelles ou tous les petits programmes qui sont peut-être en termes relatifs moins importants, mais au bout du compte, ça fait beaucoup d'argent. Donc, cette façon de vouloir... En fait, c'est créer un effet, comment on l'appellerait-on, de refroidissement, disons. Pour pas dire un effet de peur, de sidération. Intimidation. C'est une forme d'intimidation. C'est tu t'éloignes du récit. T'essayes de dire la vérité. Eh bien, regarde qu'est-ce qui t'attend. En fait, notre lanceur d'alerte, il sert d'exemple. Il sert d'exemple où l'État est en train de dire à tous ses fonctionnaires n'y pense même pas d'aller dire sur la place publique ce qui se passe dans les bureaux parce que voici ce qui t'attend. Et ça, je trouve que c'est un glissement très dangereux. Il me semble qu'au contraire, la première chose, un État... Tu vois, je me dis, on juge pas un État à la grandiosité des projets qu'il entreprend, mais à la manière dont il va gérer quand les failles sont indiquées, les failles de son projet sont indiquées. Et là, à cet égard, en fait, on met tout en œuvre pour étouffer la vérité. On déplace le focus, parce que c'est vraiment un déplacement du focus, alors que tout le focus devrait être mis sur qui a pris les décisions du 2 milliards, notamment. Ils sont où, ces gens-là? Comment est-ce qu'on peut intégrer une forme de reddition, de compte, d'imputabilité. Mais non, tous les projecteurs se déplacent, non pas vers ceux qui ont commis la faute à 9-0, c'est bien 9-0, oui, c'est ça, un des milliards, c'est 9-0, mais on met le focus sur qui? Sur ceux qui les dénoncent. C'est fou, c'est comme si la maison prend feu et on veut...
On accuse la personne qui a plein de faim, hein?
Ben voilà, c'est exactement ça.
On envoie le signal, Nathalie. Moi, je pense qu'on envoie aussi le signal aux gens de Santé Québec et aux gens de l'appareil qui entoure la fameuse mise à jour informatique. Là.
Ouais.
Vous voyez le bordel, ça sort au compte-gouttes, là, les histoires de bordel. Voyez là, ce qu'on a fait à ce fonctionnaire-là là, du ministère de l'Économie. Mais quiconque parle et dénonce... et donne des informations sur ce qui se passe vraiment à l'interne dans le fiasco informatique à la santé, bien, vous allez être viré, vous aussi. Moi, je pense que ça s'adresse, le vrai message s'adresse à cette gang-là. Parce que le nouveau bordel, c'est en santé que ça se passe, là, avec le virage informatique, là.
Et c'est ça, ça sert d'exemple, effectivement, oui, à toute la fonction publique, je dirais même parapublique, à n'importe quoi.
C'est comme,
tu vois des choses. Exactement. SAAQ Clic, le dossier, bon, il est un petit peu sur la... Comment dire, il est moins dans les médias, mais moins le focus là-dessus, mais c'est pas réglé. Et oui, en fait, on devrait... Tu vois, on parle beaucoup de la loyauté envers l'employeur. Mais je suis tout à fait d'accord, loyauté envers l'employeur. Mais sauf que quand on est dans la fonction publique, l'employeur, c'est pas ton boss, c'est pas l'État, c'est pas la ministre, c'est ton boss, ton vrai boss, à qui tu dois des comptes, ben c'est au public. Ce sont nous, dans le fond. Nous, on a chargé, il y a un contrat social qui se fait entre les citoyens, les contribuables et l'État. On a mandaté l'État pour nous fournir certains services que l'on, notamment bon, l'éducation, la santé et ainsi de suite. Donc on mandate l'État pour exercer et ou effectuer une tâche au nom de l'ensemble de la société. Donc quand un fonctionnaire prend la parole et il dit waouh, ben on a mis de l'argent sans faire une analyse de risque qui était convenable, ben il a pas manqué de loyauté. Au contraire, il a été très loyal envers ceux qui envers qui il a un devoir de vérité.
Les citoyens.
Les citoyens, exactement. Et ça, je pense qu'il ne faudrait pas...
C'est là que tu vois que toute la politique est pervertie. C'est devenu excessivement pervers. Il faut défendre le parti avant la patrie. Ah, c'est ça que la CAQ a fait. Ils ont défendu le parti avant la patrie.
Et je te dirais, il faut défendre même dans ce cas-là le récit, le mensonge, avant la vérité. Et quand on est dans ce genre de culture-là, de mentalité-là, moi, je trouve que ça fait peur parce que, OK, donc si dans ce dossier-là, le récit passe avant la vérité, ben qu'est-ce qu'il y en est pour toutes les autres choses que l'État fait? Est-ce qu'on peut te faire confiance?
Non.
Bien sûr. Et tu sais, tantôt, tu
disais... Indigne de confiance à tous les niveaux.
Que le timing est très, très mauvais. En fait, moi, je le trouve hyper bon, le timing. Hyper bon.
Ben, il est bon pour ceux qui veulent se débarrasser de la CAQ, en effet.
Il est bon timing. Avant des élections pour que tous les citoyens sachent
sont exposés.
De quoi il s'agit réellement. Voici leur vraie nature. Après ça, ben, plutôt que de voter un petit peu à l'aveuglette parce que, bon, on ne sait pas... Non, le timing, en fait, c'est presque arrangé avec le gars des vues pour que tous les citoyens, juste avant, parce que là, on tombe bientôt en vacances, à la rentrée, ça va être la campagne électorale, bon, ben, voici de quoi il s'agit. Donc, non, je pense que le timing, j'aime mieux l'avoir maintenant que de l'avoir après les élections. Évidemment, je raisonne.
C'est sûr qu'il va y avoir une accalmie estivale avec le blé d'Inde et les hamburgers, là. Mais en revenant à mi-août, septembre, les autres partis vont revenir là-dessus. C'est ça qui va alimenter, c'est ça qui va être le cœur, à mon avis, de la campagne. C'est-à-dire, voulez-vous voter pour un parti qui est indigne de gouverner ou vous voulez voter pour un parti propre, peu importe, là vous allez avoir... l'ensemble des offres politiques là, qui vont se soumettre. Mais moi, je pense que ce qui va être soumis sous la loupe, c'est la probité de ce parti-là. C'est la probité de Mme Fréchette, qui était autour de la table quand ça a été signé.
Ben oui. Et tu sais quoi, je pensais à ça et je me disais, l'argent perdu... Ben, perdu. En fait, non, d'abord, on ne perd jamais de l'argent parce que l'argent, il fait juste se déplacer. Le perdre, c'est comme s'il s'est volatilisé.
Donc, l'argent est autour de nous, hein, comme disait Vincent Lacroix.
Ben voilà. Et là, je me dis, bon, cet argent-là, il a bien dû atterrir dans les poches de quelqu'un. Il ne s'est quand même pas évaporé dans l'atmosphère. Je pense qu'on a besoin de savoir il est parti où, quels sont les liens entre ceux qui ont pris les décisions et la destination finale de cet argent-là. Il me semble qu'en tant que d'abord de contribuable, c'est notre argent, on a le droit de savoir, de un. De deux, il me semble que la moindre des choses, ce soit que les gens qui étaient autour de la table, comme tu dis, tous ceux qui ont participé à la décision, qui l'ont entérinée de façon directe ou indirecte, ben, ne devrait pas avoir le droit de se représenter en politique. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas permettre à quelqu'un qui est irresponsable avec l'argent du contribuable de revenir et de se représenter plusieurs fois consécutives. Il faut mettre des barrières. Il faut qu'il y ait au moins une digue qui fasse en sorte que la personne qui est élue, elle se garde une petite gêne avec l'argent du contribuable. C'est de savoir que si elle est reconnue impliquée, coupable de négligence criminelle économique, elle pourra plus se représenter, tout simplement. Et moi, s'il y a un parti qui promet ça, qui dit « votez pour moi », et ceux qui sont impliqués dans des dossiers, des scandales économiques, ils sont barrés de pouvoir se représenter en politique, je t'assure qu'il aura mon vote.
Très, très bon. Très bon. Merci beaucoup, Nathalie. Extraordinaire encore une fois ce matin.
Merci, Dominique.
Merci, passe un bon week-end.
Bye-bye. Merci, au revoir. Au revoir.
Fort à parier qu'on va en rejaser avec Frank au retour. Et puis on revient aux deux boules, mon cher Dan.
Ben oui, on revient aux deux boules.
Frank aux deux boules. Beaucoup de musique. Beaucoup de nouvelles de musique aussi. La tournée de Rush qui a commencé, c'est la nouvelle numéro un dans le monde du rock and roll, dans le monde de la musique, assurément. Assurément. Avec Annika qui fait l'unanimité au drum. Les setlists de Rush, c'est hallucinant. Sont en forme. C'est la nouvelle dans le rock. Mais il y a beaucoup de nouveautés également qui sont sorties. On va faire le tour de tout ça avec Frank au retour.
Morin.
Tu as quelque chose à dire?
Ça va bien aller.
Tu veux réagir? 418-670-9098. Radio X.